Peut-être il est bon que je commence en disant quelques mots sur mes rencontres avec Alexandre Solzhenitsyn. Ça ne va pas être l'essentiel de mon propos, mais c'est assez important parce que c'est un homme en chair et en os que j'ai connu. Je l'ai entreaperçu à Moscou en 1972. J'avais déjà traduit son Pavillon des cancéreux avec des co-traducteurs, dont mon épouse. J'avais déjà traduit des articles de lui dans un recueil dont je parlerai, qui s'intitule Sous voix de sous les décombres, voix qui nous parviennent de dessous les décombres. Mais la traduction française est forcément maladroite parce que en russe c'est trois syllabes, ispodgrup, et qu'en français on n'arrive pas à rendre le côté lourd, massif, trois syllabes de ce titre. Donc Solzhenitsyn était déjà entré dans ma vie. Je dois dire que j'ai terminé mon service militaire en Algérie quand apparut une journée d'Ivan Denisovitch qu'un ami m'a envoyé. C'était le numéro 11 de la revue Novy Mir en 1961. La parution d'une journée d'Ivan Denisovitch a été un événement d'ampleur mondiale pour une raison, disons, il y avait une raison littéraire et une raison politique. La raison politique, c'est que les camps de concentration du communisme étaient un thème tabou. D'abord dans l'immense empire communiste, c'est-à-dire celui sur lequel Staline allait régner, qui à son apogée allait du Vietnam jusqu'à la Bohême. Ensuite, le Vietnam a manifesté des petites autonomies à l'intérieur de cet empire communiste, comme l'Albanie, mais c'était un immense empire. Mais cet empire était doublé par un autre empire, qui était l'empire de tous les sympathisants à travers le monde, c'est-à-dire toute une intelligentsia progressiste, ou qui se croyait progressiste, et qui voyait dans cette utopie socialiste la voie de l'avenir, et ne voulait absolument pas entendre parler du souterrain de la violence institutionnalisée que représentaient les camps, qui étaient des camps de la mort. L'Union soviétique avait parlé des camps dans les années 20 et dans les années 30. Pourquoi? Parce qu'on était fiers des camps. C'était des camps de redressement par le travail. On y envoyait l'ennemi intellectuel, l'ennemi de classe, pour le redresser par le travail. C'est le dernier livre qui a porté sur le. À la gloire des camps, c'est un livre qui avait été patronné par Gorky et qui s'intitule Le canal, Belamor Canal, le canal de la mer Blanche. Cet immense canal qui conduit de la Volga, à l'endroit où son cours est le plus au nord, jusqu'à la mer Blanche. Des centaines de milliers de zecs, qui est le mot pour dire bagnard soviétique, ont péri dans ce chantier. Gorky, avec une équipe d'écrivains, était allé juste avant sa mort et a écrit un livre qui est un livre, à vrai dire, assez honteux, à la gloire de ce canal et de cette idée du redressement par le travail. On avait organisé pour lui naturellement des villages de Patiomkin, comme on dit depuis le voyage que Patiomkin, Marie Morganatic et premier ministre de Catherine la Grande avait organisé pour Catherine la Grande et Joseph d'Autriche pour montrer la nouvelle Russie, laquelle n'existait pas encore vraiment, et donc on a fabriqué des faux villages, des fausses façades, d'où cette expression, des villages de Patiomkin. Mais c'était un jeu d'enfant quand Catherine a montré à Joseph des bourgs et des villages qui n'étaient pas encore vraiment construits, qui étaient en projet. Elle voulait aller un peu plus vite que les choses réelles. Tandis que lorsque Gorki est allé voir le canal construit par les bagnards, c'était pas un village Patiomkin. C'était un énorme chantier qui, aujourd'hui, encore, a une importance économique. Donc, de ce point de vue-là, il n'était pas complètement absurde. D'autres projets de Staline, comme la voie ferrée subpolaire, étaient complètement absurdes. Et dès la mort de Staline, on les a abandonnés. Mais il se faisait à un prix humain immense. Une journée d'Ivan Denisovitch nous décrit la journée d'un petit bagnard dans le camp. Vous avez les trois unités de la littérature classique. Vous avez l'unité de temps, parce que c'est une journée. Depuis le lever, quand on bat avec un rail, avec un marteau, un rail qui est pendu à une corde, jusqu'au soir, lorsque Ivan se couche, lorsqu'il a enfin le droit un tout petit peu de songer à ses petites affaires à lui et qu'il se couche. Il a comme voisin un certain Alyosha. Ivan est un paysan russe qui sait tout faire, en particulier la maçonnerie. Donc on le voit qui construit un mur par moins 30 degrés. Et ça, c'est très particulier, de faire du béton par moins 30 degrés. Et c'est un béton particulier, il faut aller extrêmement vite, sinon le béton va geler avant, entre sur la truelle. Et la scène de la construction du mur est extrêmement belle, parce que dans cette nouvelle de Solzhenitsyn, on peut dire que c'est une sorte de désaliénation de Ivan. Il construit pour son tyran, pour son maître. Il construit quelque chose qui est sans doute sa propre prison. Mais dans l'acte de bâtir, dans l'acte de maçonner, il redevient sujet, et pas seulement objet de l'histoire. C'est ce que veut dire cette scène magnifique d'une journée d'Ivan Denisovitch. C'est aussi une raison pour laquelle il a été critiqué. Certains compagnons de bagne lui ont dit « Mais ton histoire de mur et la joie qu'éprouve Ivan Denisovitch à édifier ce mur, ça c'est des histoires qui sont fausses. Parce que aucun d'entre nous n'a jamais éprouvé cette joie. Parce que ça a toujours été une torture d'être par moins 30 degrés. » Solzhenitsyn a tenu bon, mais il a rassemblé les lettres qu'il a reçues après la publication d'Ivan Denisovitch. Il en a fait une anthologie, et c'est très intéressant de lire ce petit livre où, de toutes les confins de la Russie soviétique, lui sont venues des réactions à cette nouvelle. Mais je reviens à l'histoire de la nouvelle, parce que c'est de là que part le phénomène Solzhenitsyn. Il avait écrit cela de sa petite écriture microscopique dont il a pris l'habitude dans les prisons, au camp. Il avait écrit cela en relégation. C'est après sa relégation, c'est quand il est déjà à Riazan, où il est instituteur, en 3 semaines. Pris d'une inspiration, voilà, une journée. Unité de temps, la construction du mur, unité d'action, Et naturellement, le lieu, eh bien, c'est le camp. Le camp, la sortie du camp, la fouille, les fouilles incessantes dans le froid, dans le gel, et pour aller à l'endroit où l'on construit le mur. La particularité de ce récit, c'est qu'il montrait comment un homme ordinaire vivait dans des conditions presque intenables et vivait d'une vie qui était quand même humaine, grâce à la fibre humaine qu'a cet Ivan Denisovitch. Solzhenitsyn cache. Il sait que l'heure n'est absolument pas venue d'écrire un récit sur les camps. Parce que depuis le livre de Gorki, livre ultra-mensonger, on n'a plus jamais écrit sur les camps en Union soviétique. Les camps, c'est en Occident qu'on les dénonce. C'est en Occident que David Rousset dénonce d'abord les camps par lesquels il est passé, c'est-à-dire les camps nazis, mais qui sont finis. Et ensuite, les camps soviétiques qui ont la particularité de continuer. Et puis, il voit qu'il y a le dégel. Nikita Khrushchev, le nouveau maître de l'URSS, est en train de changer les choses. Et il envoie ça à son ancien ami de prison-laboratoire de Charashka, Lev Kopelev, qui habite à Moscou, et lui dit, voilà, lis ça, est-ce que tu crois qu'on peut en faire quelque chose ? Ça ne s'appelait pas Ivan Denisovitch, ça s'appelait Sha 842, parce que dans l'alphabet cyrillique, il y a une lettre qui s'appelle Sha, qui est une double chointante. Et c'était la lettre qu'avait sur son bonnet, sur son poitrail, dans son dos, sur ses genoux, cousu, Ivan Denisovitch. Et quiconque n'a pas tous les numéros bien cousus et à l'endroit où il faut, va au cachot. Kopelev prend le texte et va voir Twardovsky, le poète qui dirigeait la revue dite libérale Novy Mir. Alexandre Twardovsky faisait partie du comité central. Il était d'une famille de Koulaks. Son père avait été fusillé. Et il avait ce destin absolument paradoxal de beaucoup de dirigeants soviétiques de très bien savoir le fond des choses. Son père avait été découlakisé et fusillé. Et en même temps, de le cacher, et même de le cacher à soi-même. Et il était membre du comité central. Alors sa fibre interne a été vraiment touchée à la lecture d'une journée d'Ivan Denisovitch. Et il a dit, je dois publier ça. Je ne peux pas le publier. Il faut, si je le montre à la censure, parce qu'il y avait toujours eu la censure préalable, en URSS, tout le temps, du premier jusqu'au dernier jour de l'URSS, vous avez la censure préalable. Je vais la montrer à Nikita Khrushchev. Donc il se rend en Crimée, où se repose Nikita Khrushchev, dans une des anciennes villas du tsar, et en une soirée, il lui fait la lecture. Khrushchev, qui a été un bourreau, mais est aussi un ancien paysan, quelque chose aussi le touche, et en plus, il veut lancer sa campagne anti-stalinienne. Donc, politiquement, c'est payant pour lui. Et il dit à Alexandre Twardovsky, vas-y, feu vert. Et à ce moment-là, paraît une journée d'Ivan Denisovitch, qui est une sensation mondiale, parce que la vérité sur les camps venait de l'intérieur de l'Empire socialiste. La vérité sur les camps venant d'ailleurs, qui voulait pouvait la connaître. Je mentionnais David Rousset, on peut mentionner beaucoup de monde. Il y avait Boris Souvarine, par exemple, un historien remarquable qui était l'ancien fondateur du Parti communiste français au congrès de Tours en 1922, mais qui était exclu du parti qu'il avait fondé lui-même au bout de 12 mois. Donc il est devenu un dissident très rapidement. Là, c'est un record. Il y avait Jules Margolin, qui avait écrit Le voyage au pays du Zeka, pas du Zek, mais du Zeka, c'est Zaklutchon, ça veut dire le détenu. Donc, qui voulait pouvait savoir. Non, le problème, c'est qu'en général, on ne veut pas. Et par conséquent, ça reste tabou. Une journée d'Ivan Nesovitch a fait le tour du monde. Bon, mes rapports avec lui n'ont pas été des rapports intimes. J'ai environ 25 lettres de lui qui sont des réponses à mes lettres. Il y en a une petite que je publie dans le cahier d'illustration de mon livre « Le phénomène Solzhenitsyn ». Essentiellement pour qu'on voit cette petite écriture microscopique qui est très parlante sur le côté décidé et en même temps clandestin. Du personnage qui était un remarquable tacticien. Et comme... je l'ai vu à Paris, lorsqu'il a convoqué ses traducteurs, c'était un peu amusant, on avait l'impression d'être devant un instituteur qui nous faisait la leçon sur comment il faut traduire, lui-même ne connaissant pas les langues étrangères. Donc, sur la technique de la traduction, il n'avait pas grand-chose à dire. Et puis ensuite, je suis allé chez lui, dans sa propriété américaine du Vermont, parce que j'étais en congé sabbatique à l'université de Harvard, et dans l'état voisin du Vermont, il y avait la propriété de Solzhenitsyn. Je lui ai envoyé une lettre et puis j'ai eu une réponse inattendue. « Venez nous voir ». Donc j'ai passé 3 jours chez lui. Et j'ai vu la façon dont il fonctionnait, dont sa famille fonctionnait. Ses garçons, ses 3 garçons étaient encore jeunes. Et le dernier m'a montré la bibliothèque, la chapelle orthodoxe, ou de temps à autre le pope de la petite ville d'à côté venait dire un office. Et puis je voyais le maître de temps à autre, mais enfin il avait un emploi du temps très particulier. Il travaillait dès le matin, on lui passait son déjeuner qu'il prenait tout seul. C'était un peu comme, si vous voulez, un frère tourier qui lui donnait son picotin. En revanche, le soir, il était ouvert, de bonne humeur, pour la famille, et c'était un moment très très agréable. Je l'ai revu après ça encore à Moscou, mais je ne vais pas raconter tout ça. Le phénomène Solzhenitsyn, c'est difficile d'en parler, c'est difficile de l'embrasser, parce que c'est d'abord une œuvre immense. C'est-à-dire c'est un écrivain écrivant. Et bien entendu, les circonstances l'ont empêché de toujours écrire, parce que d'abord il y a eu la guerre, et puis il y a eu la captivité, le camp, la clandestinité. Il écrit en relégation de façon à ce que le KGB ne sache pas ce qu'il est en train d'écrire. Donc il jette à la poubelle des soi-disant brouillons d'œuvres anodines pour qu'on croie que c'est ça qu'il est en train d'écrire. Et il y a l'histoire du lutteur, un lutteur extraordinaire. Ce qui fait qu'on peut dire qu'il y a non pas deux faces à Solzhenitsyn, mais je dirais qu'il y a deux exploits. En employant le mot exploit au sens presque spirituel, ou pas seulement sportif, l'exploit spirituel. Et l'œuvre de Solzhenitsyn, à mes yeux, elle est marquée par une continuité extraordinaire. L'obstination d'un homme qui, dès l'âge de 18 ans, a des idées sur ce qu'il va être et sur ce qu'il va faire. Ce qui est quand même étonnant, parce que l'idée qu'il a à 18 ans, de commencer un grand roman sur la chute de la Russie, disons, la défaite de la Russie dans la Première Guerre mondiale, l'abandon des voies du développement naturel et harmonieux d'une nation, la révolution est un torrent de violence, une violence et une cruauté inouïe, car la guerre civile russe a été d'une cruauté inouïe, des deux côtés. Avec des tas d'épisodes à peine racontables. Des officiers blancs ficelés à des arbres avec leur propre intestin, des clous plantés sur les épaulettes, autant d'étoiles, autant de clous enfoncés, etc. On peut faire un cahier d'horreur facilement. Donc, d'où vient cette cruauté ? Dans un pays dont on avait dit la Sainte-Russie. Comment la Sainte-Russie peut-elle se changer en un pays qui pratique une telle dose de cruauté ? Et cette idée-là, il l'a dès l'âge de 18 ans. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Et à l'âge de 18 ans, ça se concrétise dans la scène... Les premières scènes de août 14, qui est le premier nœud de son grand roman La Roue Rouge, il tient au mot nœud, il ne veut pas le mot tome. C'est la première armée russe, commandée par le général Samsonov, dont le nom vient de Samson, Samson, et qui a été encerclée par les troupes de Hindenburg. Et est complètement anéanti. C'est-à-dire un désastre militaire qui se termine par le suicide du général Samsonov. Épisode paradoxal et peu glorieux, parce qu'on ne demande pas à un général de se suicider. On lui demande de se défendre jusqu'au bout. Mais il était arrivé au bout. Et comme dit le romancier, il n'avait voulu que faire bien, du bien, et le bien, et il n'avait réussi à faire que mal, le mal. Donc il se suicide. Et cet épisode, les forêts prussiennes, où a lieu l'encerclement de la première armée russe, le suicide du général Samsonov, et... un épisode privé, en quelque sorte, c'est-à-dire un héros inventé par Solzhenitsyn, qui n'est pas historique comme Samsonov, beaucoup de colonels, beaucoup de généraux dont il parle, le colonel Vorotintsev, arrive à échapper à cet encerclement. Il est seul, il part avec un soldat qui plus tard sera son ordonnance, un simple paysan, Arsène Blagadaryov. Il rencontre encore un fugitif, un autre, un troisième, un cinquième, ils sont six au total. Il leur dit « Si vous suivez mes ordres, je vous prends ». Il n'est pas leur chef, il commandait un régiment qui a disparu. Et le jeune homme qui est un gauchiste, qui s'appelle Lenartovitch, qui est sous-officier, un autre sous-officier, le paysan Blagadaryov, enfin, ils sont six, ils se mettent sous ses ordres. Parce qu'ils savent ce que c'est que la guerre, ils savent que sans un chef, ils n'en sortiront absolument pas. Donc il les fait sauter de clairière en clairière, selon la méthode, pour les fantassins, d'éviter une éventuelle mitrailleuse qui est cachée dans les bois, et ils vont s'en sortir. Seulement, ils rencontrent un colonel, Kabanov, qui est blessé. Et Vorotintsev lui dit « Mon colonel, nous vous prenons ». Et il ordonne à deux d'entre eux de faire une civière sur laquelle on va le porter. Alors le jeune gauchiste dit « Oui, enfin, écoutez, mon colonel, on va encore moins s'en sortir avec le colonel blessé qui est sur une civière. » Le Vorotintsev lui répond « Si vous voulez partir, vous partez. Mais si vous restez avec le colonel blessé et vous allez le porter même. » Il fait ça, évidemment, parce qu'il essaye d'insuffler un sursaut d'humanité et de spiritualité à ce petit groupe. Il sait qu'ils ne s'en sortiront que comme cela. Et donc, ce n'est pas en abandonnant le blessé qu'ils vont s'en sortir. C'est au contraire en prenant le blessé. Kabanov dit « Laissez-moi, laissez-moi, abandonnez-moi, ça n'a aucun sens. » Mais finalement, il meurt. Et alors, il y a la scène de l'enterrement de Kabanov, qui est une très belle scène. Elle ne se passe pas en Russie, puisqu'elle se passe en Prusse. Nous sommes dans les forêts prussiennes. Et ces forêts prussiennes sont décrites comme si c'était le premier jour de la création du monde. C'est le matin, c'est d'une pureté absolue. On n'entend rien parce que, brusquement, l'action militaire s'est retirée. On est une clairière, un sommet d'un monticule, et on va enterrer le colonel blessé. Et le colonel Voratintsev ne sait pas très bien quoi faire. Parce qu'au fond des âges, pour enterrer, eh bien, il y a des rites, des usages. Et en particulier, il y a le rite orthodoxe chrétien. Seulement, il a bien été à des enterrements, mais enfin, il ne connaît pas du tout la liturgie des morts. Et puis, il entend le soldat Arsène Boganariov qui dit « Mon colonel, si vous voulez, je commence. » Et qui entonne l'office des morts. Parce que lui, il était chantre dans sa paroisse. Donc, il connaît très bien la chanson, si j'ose dire. Et c'est un moment magnifique, où le subordonné prend le pas sur le chef. Et là naît une sorte d'amitié extraordinaire entre le colonel et le simple paysan, qui ne va pas aller très loin, parce que leurs destins sont forcément très différents. Et j'ai parlé de la continuité obstinée de Solzhenitsyn. Et il faut voir que les deux exploits qu'il a réussis, le premier s'appelle l'archipel du Goulag et le deuxième la Roue Rouge. Le premier, c'est donner la parole à l'immense foule des victimes du Goulag. Car il le dit dans la préface à l'archipel du Goulag. Et c'est toute la pléiade des textes qu'il y a autour de l'archipel du Goulag, dont le premier, le plus connu, est Une journée d'Ivan Denisovitch. Mais il y en a d'autres, qui décrit la condition, bon, ce que l'écrivain polonais Józef Czapski appelait la condition non humaine. Mais on peut discuter cette appellation de condition non humaine, parce que précisément elle est humaine. Et la création, la fabrication de l'inhumain, la fabrication presque industrielle de l'inhumain. Rappelons-nous les industries chimiques ou pharmaceutiques allemandes qui ont utilisé la main-d'œuvre esclave des juifs, tziganes et autres déportés, et puis ensuite les éléments de leur corps, cheveux, etc. Le camp soviétique a également fabriqué de l'inhumain d'une façon différente. Il ne s'agit pas de dire que le camp Goulag, c'est exactement le même que le camp de Auschwitz. Néanmoins, un ancien de Dachau, l'écrivain espagnol Jorge Semprún, commence son récit Quel beau dimanche, en disant qu'il vient de lire Ivan Denisovitch et qu'il est stupéfait, parce qu'il connaît tout ça. Il connaît les rites, les habitudes du camp, tout ce qui est décrit dans la nouvelle de Solzhenitsyn. Il l'a vécu, mais de l'autre côté. Ça, c'est le premier exploit de Solzhenitsyn. Et puis, il y a le deuxième, qui est la Roue Rouge. Le premier exploit est le plus connu, encore que, avec notre amnésie galopante, plus ça va, moins on se rappelle quoi que ce soit. La littérature est là pour essayer d'endiguer notre amnésie galopante, en ce sens que je pense qu'un jeune lecteur d'aujourd'hui qui prend une journée d'Ivan Denisovitch, il va être pris. Il va être pris par ce texte. Ce texte est magnifique. Il n'est pas grandiloquent, au contraire. C'est comme ça que Solzhenitsyn a essayé de rester et sans doute restera. Mais le deuxième exploit est beaucoup moins connu, c'est la roue rouge. Disons que, prenons les chiffres en France, le premier tome de l'archipel du Goulag a été vendu rapidement à 700 000 exemplaires. Donc il a eu, mettons, 1,5 million de lecteurs, plus tous ceux dans les bibliothèques. Oh, déjà le tome 2 en avait moins, et le tome 3 en avait moins, parce que il y avait ces on-dit assez malveillants qui disaient, au fond, tout ça, on connaît. On n'a pas besoin de lui. Or, on ne connaissait pas. L'archipel du Goulag est une cathédrale de mots fondée sur plusieurs, éléments édificateurs. Le premier, l'histoire de la violence institutionnalisée, depuis les premiers camps de concentration jusqu'à la fin, au moment où il écrit. Le deuxième, c'est une confession personnelle, à la manière de saint Augustin. J'ai moi-même péché. Je viens de là. J'ai été un utopiste. J'ai appartenu aux jeunesses communistes comme Sommol, comme tout le monde. Mais pas comme tout le monde, parce que moi j'y croyais. Effectivement, quand il était jeune, il avait une mère pieuse qui l'emmenait à l'église, mais en même temps, il était un jeune communiste. Il ne fallait pas jamais entrer au parti. Il s'agit du mouvement de la jeunesse communiste. Et sa conversion va très loin. Il dit, j'ai été enrôlé à un moment donné par le KGB qui voulait m'utiliser et qui m'a donné le nom de code Vietrov, qui vient de Vietre, le vent. Et vous savez, pour faire une confession de ce genre-là, il faut être bien armé intérieurement, c'est pas si facile. Il y a également un ethnologue, c'est l'ethnologue de la tribu Zec, comme il dit. C'est-à-dire, c'est ce que Semprun avait noté, il y a une ethnologie de l'homme qui est réduit dans le camp. C'est-à-dire, il est fait pour vivre dans la nature avec un ciel ouvert, et il est réduit à quelques mètres carrés sur lesquels il y a 3 000, 5 000, 10 000 personnes. Une promiscuité effrayante. Et le règne des caïdes, qui viennent évidemment des droits communs. Et puis il y a des moments de sainteté. Il y a un moment où dans le camp féminin, il aperçoit une jeune fille qui est martelée de coups par une surveillante, Matryona au capuchon rouge. Et il y a une sorte de prière à cette jeune fille. Tu es une sainte. Et puis, il y a un dialogue avec il n'est pas le seul à avoir écrit sur cette fabrique d'inhumains. Il y a plusieurs auteurs, mais je ne vais pas me lancer dans cette évocation-là, mais il n'évoquait que le nom de Varlam Shalamov avec ses récits de la Kolyma. Varlam Shalamov a choisi une technique complètement différente. C'est-à-dire, ce sont des courts récits qui sont comme des trappes qui s'ouvrent. Vous croyez que vous êtes arrivé au plus bas ? Non, ça s'ouvre encore, vous allez aller plus loin. Et vous avez par exemple une extraordinaire nouvelle qui commence comme une nouvelle d'Alexandre Pouchkine. On jouait aux cartes chez le maréchal des logis. Et là, on jouait aux cartes dans le bloc temps. Ce sont les caïdes qui jouent aux cartes. Ils jouent un zec. D'abord son pullover, puis son pantalon, puis sa vie, On va le tuer avec un clou dans la nuit. Alors cette partie de carte que nous montre Pushkin, elle est comme un peu un arrière-fond. Vous voyez, là, nous avons changé de civilisation. On joue encore aux cartes, mais l'enjeu est différent. Le lieu est différent. L'action est différente. Et puis, Charlamov donc fait des... C'est du fragment. Ce sont des récits fragmentaires. C'est le contraire de l'archipel du Goulag qui essaye d'embrasser. Et Charlamov veut montrer que rien d'humain ne reste au camp. Il a cette formule, l'humain disparaît encore plus vite que ne gèle un crachat par moins 40. Cracher, c'est une petite boule de glace qui tombe. Il montre ce qu'on appelait dans les camps allemands les musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont à bout et qui ont l'air de faire leur prière comme un musulman, assis sur leurs genoux, et qui mangent une épluchure qu'ils ont trouvée. Enfin, ils s'entrégorgent pour une épluchure. Et Solzhenitsyn dialogue visiblement avec Charlamov, déjà dans la préface. Il dit « J'avais demandé à Charlamov de collaborer avec moi pour cette grande entreprise, d'essayer de montrer le goulag. » Il n'a pas voulu. Et dans le chapitre « L'âme et les barbelés », il essaye de répondre à Charlamov. C'est-à-dire, le camp veut-il dire qu'on peut instaurer définitivement le mal dans l'âme humaine ? La réponse de Charlamov, c'est oui. Oui, 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 oui. Et si vous dites non, c'est que vous ne savez pas les camps. Ou c'est que vous n'avez pas été dans les derniers camps. Pour utiliser l'expression de Solzhenitsyn qui vient de Dante, vous n'étiez que dans le premier cercle. Descendez un peu. Au deuxième, au troisième, au quatrième, jusqu'au neuvième. Alors là, vous ne direz plus que l'âme ne peut pas dégénérer, pourrir et devenir une sorte d'ordure. Solzhenitsyn a du mal à répondre à Charlamov. Il a été dans des camps assez terribles, mais pas très longtemps. Il était d'abord dans la prison pour savants, la Charashka que l'on voit dans le roman, dans le premier cercle. Mais ensuite, il a été à Ekibastouz, et il a été à Ekibastouz quand il y a eu une révolte. Et il fait une sorte d'hymne à cette révolte. Une révolte. Une des rares révoltes qu'il y a eu au Goulag. On s'est révolté, on a pris des pelles, et tout autour, le KGB s'est installé. On a un peu parlementé. Bon, et ça a duré assez longtemps, ça a duré un mois. Le 30e jour, l'ordre a été donné de faire agir les mitrailleuses, et ça a été évidemment fini en 3 minutes. La réponse de Solzhenitsyn, c'est que la ligne du bien et du mal partage toute âme, tout humain. Mais en définitive, c'est la ligne ascensionnelle vers le bien que j'ai rencontré au Goulag. Et effectivement, il y a des portraits de saints, mais aussi de justes, on peut dire, dans le Goulag. Et en particulier un Estonien qui s'appelle Suzy, avec qui il est devenu très ami et pour qui il a une admiration énorme. Un jeune poète juif qui est mort assez rapidement. Ou alors, je reviens un instant à la journée d'Ivan Denisovitch. Comment se termine cette journée ? Ivan a réglé ses petits problèmes, je ne vais pas les raconter, je n'ai pas le temps de faire quelque chose spécialement sur une journée d'Ivan Denisovitch. Il monte sur son chalet, c'est des chalets à 2 ou 3 étages, et il a un voisin qui s'appelle Alyosha, et qui, lui, est un baptiste. Comme il y en a beaucoup en Russie, et comme ils ont mieux résisté en général que les orthodoxes, parce que, d'abord, les baptistes, en général, c'était des gens simples, milieu ouvrier, banlieue des villes, gros bourgs, et des gens qui ne voulaient pas la liturgie avec le slavon d'église. Ça leur parlait beaucoup plus d'avoir des cantiques en russe ordinaire. Et Ivan dit à Alyosha, « Ah, il me reste encore 680 jours. » Et Alyosha lui dit, « Non, Ivan, il ne faut pas compter les jours comme ça, parce que ça veut dire que tu ne vis pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu dois vivre, c'est aujourd'hui que tu dois libérer ton âme. » Ivan dit, « Mais enfin, ça c'est des façons de parler. » Mais non, pas du tout. On se libère beaucoup mieux dans la prison que hors de la prison. Et alors il cite saint Paul sans le savoir. Et bon, Ivan n'est pas tout à fait converti, mais enfin, le dialogue a lieu. Et ce dialogue, il nous rappelle un autre dialogue de la littérature russe, qui est le dialogue d'Ivan et Alyosha dans Les Frères Karamazov, où Ivan est le rationaliste, qui va finir par devenir fou, et Alyosha est le disciple du Starets Zosim. Il est au monastère, mais simplement son Starets va lui dire « Non, non, le monastère, c'est pas pour toi. Tu dois aller dans le monde et œuvrer dans le monde. » Dostoïevski voulait écrire une deuxième partie, mais il est mort, on ne sait pas ce qu'aurait été ce frère Karamazov suite. Vous voyez, c'est pas au hasard non plus qu'il y a Ivan et Alyosha. Ça veut dire, c'est les grands dialogues philosophiques sur la foi, sur l'existence ou pas de Dieu. Je vous rappelle ce que dit Ivan Karamazov. Il dit à Alyosha, je veux bien croire à ton Dieu. D'accord, finalement j'ai rien contre. Simplement, il faut que tu m'expliques l'origine du mal sur cette planète. Et il faut que. Tant qu'il y aura une fillette torturée qui pleure dans un coin de la planète, moi, je rends mon billet à ton Dieu. Voilà la formule d'Ivan. Alors, Ivan Denisovitch ne va pas du tout si loin, parce qu'il est moins raciocinant que Ivan Karamazov. Mais c'est quand même lui qui est face à un autre Alyosha. Deuxième exploit, la roue rouge, qui devait être en 22 nœuds. En définitive, Alexandre Solzhenitsyn en a écrit que 4. Août 14, octobre 16, mais qu'on a traduit en français par novembre 16, à cause du décalage du calendrier, et vous savez que la révolution du 25 octobre 1917 que célébraient les bolcheviks et l'Union soviétique, c'était le 7 novembre, selon le nouveau calendrier, le calendrier grégorien, l'orthodoxie. La Russie avait le calendrier julien jusqu'à un décret de Lénine, qui a fait la réforme de l'orthographe, d'une part une sorte de simplification, et qui a aligné la Russie sur le calendrier de l'Occident, en l'occurrence le calendrier grégorien. Il n'a fait que accomplir là deux réformes qui étaient en discussion, qui allaient se faire en Russie. Troisième tome, mars 17, lui-même, troisième nœud, lui-même en quatre tomes, et puis avril 17 en deux tomes. L'ensemble fait, en pages très serrées, 6600 pages. Et ce n'est que 4 nœuds. Il devait y en avoir 22. Alors, à la fin du. Après le deuxième tome du quatrième nœud, Alexandre Solzhenitsyn dit : Bon, je m'arrête là. Je m'arrête là d'abord à cause de mon âge et de mes forces. Tenir en main 200 ou 300 personnages, comme doit le faire un romancier du type de Balzac, Hugo, Zola ou Solzhenitsyn, avec l'âge, ça devient plus difficile. Et puis, il ajoute une deuxième raison. Il dit, et puis, les choses sont claires, déjà en avril 17. Ça, c'est parce que sa thèse qu'il montre dans ses esquisses d'exil, le moment où il a découvert que tout s'est joué en février 17, au premier épisode, et pas en octobre ou novembre 17. Autrement dit, que ce n'est pas les bolcheviks qui sont les plus coupables. Et puis, il ajoute encore 250 pages de résumé de ce qu'il aurait dit et ce qu'il aurait écrit s'il l'avait écrit. Ce qui est assez étrange, et je crois que c'est la première fois dans la littérature que nous avons en 250 pages un résumé de tome absent. Il y a des... Pour aller de l'un à l'autre de ses exploits et pour montrer cette continuité, mais je la montrer, je n'ai pas le temps, peut essayer d'illustrer un tout petit peu cette continuité. Vous avez des personnages relais. Par exemple, on constate qu'un des premiers personnages s'appelle Nirjin, dans les tout premiers récits qu'il écrit dans les années 30 et que nous connaissons maintenant. Nirjin. Or, Nirjin, c'est le personnage central du premier cercle, dans cette prison pour savants. C'est lui qui hésite entre la droite et la gauche. À droite, il y a son ami Sologdin, qui est pour le Moyen-Âge, pour un christianisme sévère, pour le refus de l'Occident. À gauche, il a un marxiste qui est aussi un de ses grands amis. Et lui, il cherche la voie. Un petit peu comme dans la montagne magique, le héros de la montagne magique entre Settembrini et puis le jésuite. Et ce Nirjin, on va le retrouver dans la dramaturgie. Donc ça, c'est un nom propre relais qui passe, qui nous prouve tout simplement à quel point Solzhenitsyn tient toujours le même fil. Et Nirjin, c'est le quêteur de vérité. C'est le proclamateur du vrai. Il voudrait être proclamateur du vrai, mais il ne sait pas où il est le vrai. Et puis, il est broyé également entre deux meules. Et meule, c'est aussi un mot refrain qu'on trouve chez Solzhenitsyn. Dans mon premier livre sur lui, ça c'était en 1974, paru à l'âge d'homme, ce qui m'avait frappé, tout d'abord, c'était les métaphores. Et les métaphores paysannes. La métaphore du grain, bon, qui vient de l'Évangile. Si le grain ne meurt, il faut qu'il meure pour vivre. Et cette métaphore, elle est cachée, mais on la retrouve un peu partout. Et puis, les meules, pour broyer le grain et donc faire la farine. Et la recherche du vrai consiste à passer entre les meules. Les meules des différents mensonges et les meules des différentes épreuves. Et même, une fois qu'il est en Amérique, il dit « Les meules occidentales sont moins spectaculaires, mais pas moins atroces que les meules soviétiques ». Et ça, c'est dans un livre qui s'intitule « Le petit grain tombé entre les meules ». Il aime beaucoup les proverbes. Par exemple, son premier tome de mémoire, c'est « On a traduit le chêne et le veau ». Le traducteur, c'est le père René Maréchal, un jésuite sévisant. Je lui dis « Je pense que vous avez mal traduit le titre ». Parce que le titre, c'est « Comment le petit veau donnait des coups de corne au chêne ?» Ce qu'il faut bien voir, c'est que le petit veau, il a des toutes petites cornes naissantes, et néanmoins, il va s'attaquer à un grand chêne. Alors, le chêne et le veau, on ne voit pas très bien. C'est la même idée de se lancer à l'attaque, même si, disons, on n'a pas grande chance. On trouve aussi la métaphore paysanne de l'air abattre. Ça, c'est dans les grandes scènes de guerre, dans août 14, il y a des scènes magnifiques, où, si vous voulez, c'est par la métaphore qu'il arrive à montrer que ce colonel, ce soldat, Lagaderjov, qui sont pris dans un véritable déluge de feu. C'est la Première Guerre mondiale qui a inventé le véritable déluge de feu avec même des techniques de déluge de feu par l'artillerie. Il n'est plus question de s'orienter, il n'est plus question que d'essayer de survivre, de garder son sang-froid. Eh bien, c'est le grain sur l'air à battre, avec le fléau qui tourne et qui tombe. Et le grain, si le grain ne meurt, je crois qu'on peut dire que la parabole du Christ informe l'ensemble de l'œuvre de Solzhenitsyn. Que le verset de Saint Jean irradie, disons, dans l'entretien chuchoté entre Ivan Denisovitch et son voisin Alyosha le Baptiste, le soir, quand ils ont fini leur journée de bagne. Et que le Baptiste explique au petit maçon qu'est Ivan qu'il doit décourber son âme, tout de suite, ici, là, sur le chalut. Et pas attendre qu'on l'ait libéré, parce que de toute façon, il n'en sait rien. Et ce que le paysan Blagadaryov apprend au colonel Vorotintsev, qui est un intellectuel de droite, il est devenu colonel, il est un jeune turc de l'armée russe d'alors, c'est-à-dire contre les généraux, contre les techniques anciennes militaires, parce qu'il a pressenti que la guerre serait différente, un petit peu comme le colonel de Gaulle dans ses premiers livres dans les années 1930. Mais il n'est pas particulièrement croyant. Il va, sa nourrice, une fois qu'il est à Saint-Pétersbourg, lui dit bien, tu viens avec moi, hein, on va, c'est le début de la Semaine Sainte. Mais il ne veut pas y aller. Le tire, il y va pour faire plaisir à sa nourrice. Et là, sous le déluge de feu, il se passe quelque chose et qu'il pense que peut-être ça va être le grain qui va renaître. Et au fond, toute la roue rouge est une hésitation sur cette revie du grain russe. Et une bonne part de la tension de cet énorme roman, c'est précisément les hésitations de l'auteur à décider est-ce que la Russie va renaître ou pas. Parce que dans l'archipel du Goulag, au fond, il est sûr, on va renaître. De même que quand il était en exil en Amérique et qu'on lui posait la question qu'est-ce que ça vous fait de vivre et sans doute de mourir hors de la Russie, il dit qu'il vous dit que... Il a répondu plusieurs fois qu'il vous dit que je vais mourir en dehors de la Russie. Je mourrai en Russie. Je suis sûr que je rentrerai en Russie. On disait, mais comment, quoi ? Enfin, l'Empire soviétique avait l'air bien installé. Et les 10 000 experts soviétologues de la CIA n'avaient rien vu venir avant la perestroïka. Il a toujours dit, non, non, vous vous trompez. Je ne sais pas quand, mais je rentrerai. Ça fait la grandeur de l'archipel du Goulag. Et Hélène Tchoukovskaya, la fille de l'écrivain Lydia Tchoukovska, elle-même écrivain, a dit très justement, l'archipel du Goulag est un livre dans lequel on entre étant un homme et on sort étant un autre homme. C'est-à-dire, c'est un grand livre. C'est un livre qui vous change. Il y en a comme ça. Et l'archipel du Goulag, si on prend la peine de le lire, est un livre qui vous change, vous en sortez différent. Mais dans La Roue Rouge, qui est une cathédrale historienne, Solzhenitsyn devient un historien de type différent. Parce qu'il faut bien voir que dans l'archipel du Goulag, il est historien un peu à la manière de saint Augustin, c'est-à-dire il part de lui-même, de son cas. Ensuite, c'est de l'histoire orale, comme on dit. Et c'est-à-dire que lorsqu'il a eu les réactions de centaines de lecteurs à son Ivan Denisovitch, il est allé voir ses lecteurs, ou bien il a envoyé des amis sûrs. Il avait un groupe de fidèles autour de lui. Et les 222, je crois, témoins, dont les témoignages sont inclus de façon anonyme dans l'archipel du Goulag, c'est une merveilleuse œuvre de ce qu'on appelle oral history, l'histoire orale, où l'on va chercher le témoignage des survivants. Pour la Roue Rouge, alors là, on recule. C'est la Russie de 1914-17. Et c'est à travers des textes que Solzhenitsyn va chercher. En même temps, il cherche son père, parce que son père est mort avant sa naissance. Il est mort 3 mois avant sa naissance. Et c'est pas tout à fait clair ce qui s'est passé. Son père était un lieutenant qui a été décoré de la Croix de Saint-Georges au front, donc pour acte de bravoure. Et puis ensuite, en 1917, il a été dans des comités révolutionnaires. Puis il est venu en permission, mais l'armée était déjà en décomposition. On l'a quitté un peu comme on voulait, on revenait comme on voulait. Et soi-disant, dans un incident de chasse, il aurait été tué par un compagnon de chasse de façon imprévisible. Mais là, j'ai jamais demandé à Alexandre Solzhenitsyn et il n'en parle pas. Mais il circule les bruits selon lesquels il aurait été liquidé par quelqu'un. De toute façon, ce père inexistant, qui a combattu dans les forêts prussiennes en 1914, le lieutenant, puis capitaine Solzhenitsyn, le retrouve lorsqu'il combat dans les mêmes forêts prussiennes en 1944 et début 1945. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de nœud qui se noue dans l'œuvre et dans la vie de Solzhenitsyn. Dans la vie, parce que dans cette forêt et dans une nuit, et il le dit, eh bien, il retrouve son père. Il ne peut pas ne pas y penser. Il a combattu là, ce père qu'il n'a jamais connu. Puis il avait autre chose à faire. La survie dans l'Union soviétique, c'était pas la quête du père, surtout un père officier de l'armée tsariste. Ça, c'était quelque chose à cacher, à ne jamais mettre dans les enquêtes que l'on faisait sur quand on demandait un travail. Et puis, c'est un nœud dans l'œuvre, parce que on passe, c'est un flashback, on passe de l'histoire du bagne soviétique, communiste, au déraillement de l'histoire de la Russie. On recule de 2 générations. Et en même temps, Solzhenitsyn est un tel travailleur. Il a ramassé, récolté tant de manuscrits venus de toutes les migrations russes qu'il le dit dans ses esquisses d'exil, ça va jusqu'à l'hallucination. Il avait des moments où il croyait que certains de ses personnages étaient à côté de lui, en particulier Nicolas II. Mais il se heurte au problème, là, de l'historien classique. Parce que l'historien, c'est quelqu'un qui travaille avec le document primaire, dans les archives. Certains d'entre vous sont peut-être historiens, on commence en... le prof vous dit, bon, ben, vous allez travailler dans les archives notariales à Fribourg ou à un autre coin. Et donc, on se collecte avec le document. On le lit. On le recopie. On essaye de lui trouver du sens. Mais en prenant de l'âge et de la bouteille, les gens qui ont grand tempérament d'historien arrive au moment où ils ont fait suffisamment de recherches pour tenter une synthèse. Alors une synthèse de quelque chose, histoire de France, histoire de Russie, Bon, ça, c'est les grandes synthèses. Histoire de la Révolution russe, c'est aussi une très grande synthèse. Et Solzhenitsyn se heurte, comme les autres historiens, et on peut donner leur nom, Adam Oulam, Orlando Falges, Marc Ferro, à la définition de l'objet d'étude et à ses limites. Ça commence où? Ça se termine où? Si on dit ça commence le 10 février 17, ça se termine le 26 octobre, c'est pas très intéressant. On voit pas grand-chose. Et alors, on le voit se heurter à ça. Il fait des flashbacks. Il met extrait des nœuds précédents. Et par exemple, c'est l'assassinat du Premier ministre Stolypine au Grand Théâtre de Kiev en 1911, en présence du tsar, par un agent double de l'Okhrana, qui était à la fois à l'Okhrana tsariste et dans les milieux terroristes. Et pour l'histoire de la cruauté, là aussi, ça, c'est sans limite dans les frontières temporelles. La cruauté commence quand? Et là, on peut donner des quantités d'exemples. Alors, par exemple, dans mon livre, je compare de façon précise le livre de Orlando Falges, l'historien anglais. Ça a été traduit 10 ans de retard en France, Russian Revolution, avec la Roue Rouge. Parce que Orlando Falges a les mêmes problèmes de limitation temporelle et de choisir en dehors des grands noms. Bon, on peut faire l'histoire des généraux, l'histoire des premiers ministres, ça ne mène pas loin pour la Révolution russe. Alors il prend ce qu'il appelle des personnages témoins, comme par exemple un paysan alphabétisé, qui prend une ferme individuelle, c'est-à-dire quitte la collectivité paysanne appelée le MIR, selon la législation de ce Stalipine dont j'ai parlé il y a un instant, qui autorisait à quitter le MIR, il devient un fermier indépendant, ce qui est mal vu par la majorité des gens du MIR. Et puis ensuite, il rend ses terres, il va entrer au kolkhoz, il devient bolchevique et il réprime une grève ouvrière à Aryol. Voilà un exemple de personnage qui permet de comprendre ce qu'est la Révolution russe, c'est-à-dire ces balancements extraordinaires. Parce qu'il n'y a pas que Lénine, il y a tous ceux qui ont fait la Révolution russe. Et Solzhenitsyn s'est heurté au même problème. Il a ses propres solutions, mais il est un homme plus engagé philosophiquement parlant, et dans sa recherche, il découvre que c'est Février qui est le coupable. C'est le mensonge, c'est ce qu'il appelle les eunuques de la vérité. C'est-à-dire tous les intellectuels de droite qui se gauchisaient, tous ceux qui ont honni un régime tsariste avec lequel ils ne voulaient pas collaborer. Le refus de collaboration, le refus de compromission. Un refus qui est dénoncé en 1909 par le philosophe Nicolas Berdiaev et d'autres dans un recueil qui s'appelle « Les jalons ». Alors, j'essaie de montrer l'importance de ces jalons pour comprendre Solzhenitsyn, que cette dénonciation du maximalisme russe en fait partie, et que ce n'est pas la secte bolchevique qui est coupable, parce qu'il a lu Hippolyte Taine, il a vu dans le tableau de la révolution que fait Hippolyte Taine l'accusation que Hippolyte Taine explique, c'est la secte jacobine. Voilà, les choses ont déraillé en France à cause de la secte jacobine. Donc il pourrait faire une sorte de duplicata de cette thèse que d'autres ont fait en disant c'est la secte bolchevique, c'est Lénine, c'est le bolchevique au couteau entre les dents. Et à sa surprise, il découvre en travaillant et en malaxant le matériau historique que non, c'est Février. C'est Février qui est le triomphe des eunuques de la vérité. C'est des gens comme le grand intellectuel et historien Pavel Miliukov, qui ensuite émigre, écrit des grands livres d'histoire en français avec ses collègues français, Senio Boss. Et c'est une des raisons pour lesquelles il s'arrête en avril. Et c'est une des raisons de cette postface que je vous ai déjà citée, où il dit « D'une part, je n'ai plus les forces, mais d'autre part, si vous voulez, je vous ai déjà livré la clé. Parce que la clé, je l'ai trouvée. C'est février, c'est pas octobre. Donc je n'ai pas le besoin absolu de pousser mon récit jusqu'à octobre et au-delà, puisque j'en ai pas les forces. » Il y a dans ce que j'ai appelé un échec génial, c'est un échec dans la mesure où Solzhenitsyn voulait trouver à quel moment et à quelle heure la Russie avait déraillé. Ça, il ne le trouve pas beaucoup. D'autre part, il ne trouve pas non plus un accusé. Et en tout cas, ce n'est pas l'accusé qu'il avait cru tenir en main au début. Il y a une très très grande honnêteté dans cette entreprise, où l'on voit, et surtout à l'aide de ses mémoires, qui commentent les différents pas de cette avancée. Ça a duré 10 ans, disons la reprise en Amérique de ce grand roman de la Roue Rouge a duré 10 ans. Mais 10 ans, jour pour jour, c'était l'enfermement dans cette maison où il a bien voulu m'accepter pendant 3 jours, mais où je le voyais les soirs. Donc j'ai vu comment il travaillait. J'ai vu cette table longue de 8 mètres, il y en avait une à chacun des 2 étages, avec les feuillets, les chapitres, les personnages, les scènes, très méthodique. La même chose qui lui faisait trouver la clé dans l'archipel du Golag lui fait perdre la clé dans la Roue Rouge et sentir, pressentir que c'est ailleurs que ça se passe, que c'est en février. La perte de la vérité. Seulement, la perte de la vérité n'est pas encore une explication. Parce que pourquoi perd-on la vérité? Et à quel moment perd-on la vérité? Et quelle vérité? Oui, c'est pas évident. Cette vérité qui est la vérité d'une nation, qui est la vérité de la Russie, qui est la vérité d'une Russie qui était pécheresse, mais qui avait de la sainteté en elle. Pourquoi a-t-elle perdu la vérité? De même, un de ses refrains, c'est « Le visage russe a changé ». C'était un visage de bonté. Ces moujiks avec leur grande barbe avaient des visages bons. Et puis, ça a changé. Et puis, ces actes de cruauté dont j'en ai évoqué 2 ou 3. Et ce n'est pas des actes de cruauté sur ordre de Lénine. C'est spontané. C'est-à-dire, effectivement, les choses ont changé. Mais pourquoi? Et c'est là qu'il y a un échec. Et peut-être est-ce un échec tout à fait obligatoire. On ne peut pas trouver dans les grands événements d'où cela vient, bien que pour la Révolution française, on a des grandes thèses, des grandes explications. C'est au moment où les régimes autoritaires faiblissent qu'on se révolte contre eux. C'est pas au moment où ils sont les plus durs. Il n'y a pas eu de révolte contre Staline. Donc il fait un beau portrait, parce que là, je mentionne un passage, les personnages, c'est une galerie immense. Trotsky, par exemple, dans la deuxième partie d'Avril, qui n'est pas encore traduite en français, il est magnifiquement vu. Bien entendu, Lénine, et Lénine à Zurich. Alors, Lénine à Zurich, c'est quelques chapitres sur Lénine qu'il a repris et qu'il a rassemblé, parce que quand il est arrivé à Zurich, en 1974, l'idée d'être dans la ville où Lénine avait vécu en exil lui a donné comme une sorte de coup de fouet. Il se promène, il voit au Kegel Club et dans les gasses, les endroits où vivait Lénine avec sa femme, où il retrouvait d'autres exilés bolcheviques et où il faisait une petite cuisine d'où est sortie, en un sens, la révolution russe. En un sens. Et alors ça lui donne un coup de fouet. Et il le dit, grâce à Zurich, je m'y suis remis. C'est à Zurich, d'ailleurs, qu'il a une vision, c'est le Parvus, qui est un juif allemand qui a négocié, en somme, la sortie par l'Allemagne de Ulyanov Lénine. Parvus vient dans une grande scène comme un tentateur de... Parvus, c'est le petit, et c'est le petit tentateur qui vient voir le grand démon. Ça lui a été beaucoup reproché comme étant une sorte de scène antisémite par sa structure métaphorique. Et les accusations ont repris lorsqu'il a fait paraître 200 ans ensemble sur la vie commune des Juifs et des Russes après le troisième partage de la Pologne, quand des millions de Juifs sont entrés dans l'Empire russe. Je mentionne ça parce que c'est aussi un autre chapitre que les polémiques autour de Solzhenitsyn. Mais il y a en lui un poète qui a été entraîné dans l'action, un contemplateur qui a été entraîné dans la lutte. Et pour terminer, sur une autre note solzhenitsynienne, je vous lis un de ses petits poèmes en prose. Il en a écrit une première série avant l'archipel et la roue rouge, et il en a écrit une deuxième série après, quand elle a eu terminé cela. Ça lui ressemble aussi. Donc, il se permet quelques petits poèmes après. Et ça, c'est avant. La respiration. Il a plu un peu cette nuit. Et maintenant, le ciel est traversé de gros nuages, et de temps à autre, il tombe quelques gouttes. Je suis debout sous un pommier. Mais les herbes tout autour embaument après la pluie et aucun mot ne peut exprimer cette odeur sucrée qui imprègne l'air. Je la hume à plein poumon. Je sens cet arôme avec toute ma poitrine. Je respire, les yeux tantôt ouverts, tantôt fermés. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Voilà, en somme, la liberté, l'unique liberté, mais aussi la plus précieuse dont nous prive la prison, pouvoir respirer ainsi, pouvoir respirer dans un endroit comme celui-ci. Aucune nourriture terrestre, aucun vin, aucun baiser de femme même n'est pour moi plus doux que cet air ivre de floraison, d'humidité, de fraîcheur. Peu importe que ceci ne soit qu'un minuscule jardin resserré entre les cages à fauves de maisons de quatre étages, je cesse d'entendre les pétarades des motocyclettes, les hurlements des postes de radio, le tambourinement des haut-parleurs, tant qu'on peut encore respirer après la pluie, sous un pommier, on peut encore vivre. Voilà.